Le leader de la révolution islamique réaffirme que l'Iran et le Turkménistan sont des pays frères et qu'ils partagent des affinités culturelles. Le premier avion direct du Venezuela vers la Syrie est arrivé à l'aéroport international de Damas. Et au Soudan, l'arme suspend les pourparlers de cesser le feu avec les paramilitaires. C'était les principaux titres. En voici le journal. Lors d'une audience accordée au président du Conseil du peuple turkmène, Gurbanguly Berdi Muhammadov, et à la délégation qui l'accompagnait à Téhéran, dans l'après-midi du mercredi 31 mai 2023, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souligné que l'Iran et le Turkménistan étaient des pays frères et partagent des affinités culturelles. De telles affinités culturelles sont une importante plateforme pour le développement des relations bilatérales, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des routes, a déclaré l'Ayatollah Khamenei lors de cette rencontre. Des points communs culturels qui ne doivent pas être sous-estimés, a ajouté le leader de la révolution islamique, faisant allusion aux centaines de savants et de personnalités célèbres qui vivent ou ont vécu entre le fleuve Atrak en Iran et le fleuve de Jihun au Turkménistan. Le leader de la révolution islamique a en outre fait allusion à la tombe du célèbre poète turkmène Martoum Ali Farahi en Iran. L'Ayatollah Khamenei a salué l'attention particulière que le chef du Conseil populaire turkmène accorde aux questions culturelles et religieuses et ses efforts visant à multiplier les centres culturels et les mosquées. Dans le domaine commercial, nous pouvons renforcer nos coopérations, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du gaz. La République islamique est prête à coopérer dans ces domaines, a souligné le leader de la révolution islamique. Se référant à la demande formulée par le chef du Conseil du peuple du Turkménistan pour la participation de spécialistes et d'experts iraniens à la construction d'une autoroute à proximité de la frontière irano-turkmène menant à la mer Caspienne, le leader de la révolution islamique a ajouté « Le ministère iranien des routes a la capacité de construire cette autoroute tout en considérant sa place importante dans les communications terrestres et ferroviaires dans l'économie mondiale. Nous sommes déterminés à achever le corridor de transport nord-sud qui peut relier le Turkménistan et ses pays environnants à la mer d'Oman. Le développement des relations est au profit des deux pays. » Une coopération renforcée entre la République islamique d'Iran et le Turkménistan pourra améliorer le statut des deux pays dans un monde en mutation. Lors de mes voyages en Iran pendant ma présidence, j'ai toujours profité de vos points de vue et de vos recommandations. J'ai réalisé d'importants travaux. Actuellement, j'attends de nouvelles recommandations de votre part pour la réalisation de grands projets au Turkménistan, a confié Gurbanguly Berdi Muhammadov, président du Conseil du peuple du Turkménistan, se félicitant de sa rencontre avec le leader de la révolution islamique à laquelle a également participé l'Ayatollah Ameli Darijani, le chef du Conseil de discernement du bien de l'ordre islamique. Lors de mes rencontres avec les responsables iraniens, nous avons conclu des accords satisfaisants sur le renforcement de la coopération impliquant des experts et des spécialistes iraniens dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, du gaz et de la construction des routes, a encore ajouté M. Berdi Muhammadov. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a quitté Téhéran pour le Cap en Afrique du Sud pour assister à une réunion des hauts diplomates du puissant groupe des économies émergentes du monde, connu sous le nom de BRICS. M. Amir Abdollahian a annoncé mercredi 31 mai sur Twitter son départ pour le Cap où la réunion des BRICS devrait avoir lieu ce jeudi 1er juin. Le groupe BRICS regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Iran fait partie de plus d'une douzaine de pays qui cherchent à adhérer au bloc et a soumis une demande officielle pour rejoindre l'organisme. La Russie et la Chine ont favorablement accueilli la candidature de l'Iran et l'expansion du groupe des puissances internationales. En juin dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que le processus d'expansion du groupe a été lancé. Le principal critère ici sera d'assurer une plus grande efficacité et d'accroître l'impact pratique du travail du bloc. L'an dernier, le président iranien Ebrahim Raisi s'est adressé au sommet virtuel des BRICS à l'invitation de la Chine, affirmant que la République islamique pourrait servir de partenaire durable reliant les BRICS au point d'étranglement énergétique et aux principaux marchés du monde, compte tenu de la situation géopolitique unique du pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre les objectifs malveillants du régime sioniste d'accroître sa présence dans la région. Il a souligné que les provocations régionales du régime de Tel Aviv ne resteraient pas cachées, car l'Iran est bien conscient des intentions du régime sioniste. Mercredi 31 mai, Nasser Kanani a une fois de plus fustigé sur son compte Twitter le régime sioniste pour ses vains efforts dans le but de nouer des liens quelconques afin de se rapprocher des pays de la région. Aucun des mouvements régionaux du régime sioniste ne restera caché au regard perspicace de la République islamique d'Iran, a déclaré Nasser Kanani. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a réaffirmé le manque de fiabilité du régime de Tel Aviv. La toile d'araignée qu'Israël n'est pas digne de la confiance des pays de la région, dit-il. Kanani a affirmé que les tentatives d'Israël d'étendre sa présence régionale n'aideraient pas à consolider les fondements internes de plus en plus fragiles du régime. Le régime sioniste est détesté par les nations de la région et du monde entier et n'aura aucun avenir dans notre région, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nasser Kanani a publié ce tweet un jour après l'arrivée du chef de l'entité sioniste Isaac Herzog à Bakou, capitale de la République d'Azerbaïdjan, et ses discussions avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur ce qui serait, selon les prétentions des autorités de Tel Aviv, la menace de l'Iran pour la stabilité régionale. Après sa rencontre avec le président azerbaïdjanais, Isaac Herzog a prétendu qu'il s'était entretenu avec Ilham Aliyev de l'ensemble de la structure de sécurité mondiale et régionale qui est menacée par l'Iran. La République islamique est depuis son établissement un soutien indéfectible des mouvements de résistance dans la région et a catégoriquement refusé de reconnaître le régime d'apartheid israélien. En mars 2023, Téhéran a critiqué le gouvernement azerbaïdjanais pour son partenariat avec le régime sioniste, qui envisage d'établir un soi-disant front régional contre la République islamique d'Iran. Téhéran a exhorté les responsables azéris à lui fournir des explications sur cette question. Des estimations récentes montrent que la République d'Azerbaïdjan est devenue le plus grand fournisseur de pétrole du régime sioniste, tandis que près de 70% du matériel militaire de Bakou sont achetés au régime israélien. Le premier avion direct du Venezuela vers la Syrie est arrivé ce mercredi 31 mai à l'aéroport international de Damas, venant de l'aéroport de Caracas, en prélude au retour du trafic aérien entre les deux pays suspendu depuis près de 12 ans. Le correspondant de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, a indiqué que 102 passagers étaient à bord de l'avion, dont le ministre vénézuélien des Transports, le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères, un nombre de responsables vénézuéliens, des professionnels des médias, des touristes et des hommes d'affaires. Recevant son homologue vénézuélien à l'aéroport de Damas, le ministre des Transports a souligné l'importance de la reprise des vols entre les deux pays, indiquant qu'il y aura des discussions pour développer le mécanisme de coopération conjoint entre la Syrie et le Venezuela pour réactiver tous les accords conclus précédemment. Pour sa part, le ministre vénézuélien des Transports a dit « Après 12 ans, les vols entre nos deux pays seront repris et ce vol représente une victoire pour nos peuples et nos pays. » Et l'incarnation de la volonté des dirigeants des deux pays. Le ministre syrien des Ressources hydriques, Tamam Raed, a discuté mercredi 31 mai avec le représentant résident de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Mike Robson, et la délégation qui l'accompagnait dans sa visite en Syrie, des moyens de coopération pour soutenir des projets de développement et des questions d'intérêt commun. Lors de la rencontre, Raed a affirmé l'élargissement des perspectives de la coopération simultanément avec la réhabilitation des infrastructures endommagées pour servir le peuple syrien, aider au retour des déplacés, soutenir la stabilité des agriculteurs et maintenir la sécurité alimentaire, soulignant la poursuite de la coopération avec toutes les organisations internationales dans tous les domaines au profit des citoyens. Pour sa part, Robson a mis l'accent sur la coopération et la coordination à haut niveau octroyée par le ministère des Ressources hydriques, ce qui a facilité la mise en œuvre de nombreux projets et encouragé l'organisation à poursuivre le travail et à proposer de nouvelles perspectives dans des projets qui portent une dimension durable, indiquant la détermination de l'organisation à aider à surmonter les effets du tremblement de terre. L'armée soudanaise a suspendu mercredi 31 mai les pourparlers concernant un cessez-le-feu et la possibilité d'un accès humanitaire, a déclaré une source diplomatique soudanaise à Reuters, faisant craindre une nouvelle effusion de sang et le chaos. Les pourparlers avec les forces paramilitaires rivales de soutien rapide, FSR, ont commencé début mai et ont abouti à une déclaration d'engagement à protéger les civils et à deux accords de cessez-le-feu à court terme qui ont été violés à plusieurs reprises. L'armée et les FSR avaient convenu de prolonger de 5 jours un accord de cessez-le-feu d'une semaine, juste avant son expiration lundi soir. Les deux parties ont violé un cessez-le-feu après l'autre, faisant craindre une violence prolongée qui pourrait déstabiliser d'autres pays de la région. Les habitants ont signalé de violents affrontements dans le sud de Khartoum et à Omdurman, de l'autre côté du Nil, jusqu'à mardi soir. La trêve a été négociée et surveillée à distance par l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui affirment qu'elle a été violée par les deux parties, mais a toujours permis l'acheminement de l'aide à environ 2 millions de personnes. La guerre a forcé près d'1,4 million de personnes à fuir leur foyer, dont plus de 350 000 qui ont traversé vers les pays voisins. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Plan israélien de déstabilisation de l'Algérie. Des informations confirmées indiquent qu'une réunion s'est tenue lundi 29 mai à Tel Aviv entre les services de renseignement du régime sioniste, 5 responsables des services secrets français et 12 responsables des services de renseignement marocains. Cette rencontre ne se fixait qu'un seul objectif, créer de troubles en Algérie, ont annoncé des sources dignes de foi. Plus clairement, il a été question d'opérations de déstabilisation de l'Algérie via des troubles sociaux. L'opération de déstabilisation de l'Algérie consiste à créer des troubles dans certaines villes, précise ses sources, ajoutant « L'ennemi a visé l'unité et la cohésion nationale ». Ce n'est pas la première fois que l'Algérie annonce le complot des ennemis pour perturber la stabilité et la sécurité de ce pays. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, lors d'une rencontre avec les journalistes du pays en février dernier, a déclaré « Tous les 5 ans, l'Algérie fait l'objet d'une sédition que surmontent les institutions par leur sagesse et les citoyens par leur maturité politique. » Dans ce drafine, en visite dimanche à la 5e région militaire à Constantine, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Changriha, avait fait part de la neutralisation des efforts de l'ennemi de semer le chaos dans le pays. Les tensions entre Israël et l'Algérie ne sont pas liées uniquement au Maroc. Les deux parties sont en confrontation directe sur d'autres dossiers comme la Palestine et l'Afrique. En février dernier, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, la délégation israélienne a été exclue de la salle abritant les travaux et la question du statut d'observateur d'Israël au sein de l'organisation panafricaine que le régime israélien avait obtenue en catimini en juillet 2022 a été renvoyée au calende grec. Aussitôt, Israël a accusé l'Algérie et l'Afrique du Sud d'être derrière cette exclusion. L'Algérie et le Maroc sont des pays rivaux en Afrique du Nord depuis des décennies. Cette tension s'est intensifiée après la signature par Rabat d'un accord de normalisation des relations avec le régime sioniste. Cet accord, qui porte sur des domaines militaires et sécuritaires, est considéré par l'Algérie comme une menace pour sa sécurité nationale et a entraîné la rupture des relations économiques et politiques avec le Maroc.